Moi, c'est André de Mbujima, au Kata oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Le gouvernement congolais a annoncé dans la soirée du samedi 25 janvier 2025 la cessation de toutes ses relations diplomatiques et consulaires avec le Rwanda. Le gouvernement congolais a rappelé ses diplomates accrédités à Kigali en République du Rwanda avec effet immédiat. Et par une correspondance de la ministre congolaise des Affaires étrangères, le gouvernement congolais avait demandé aux autorités rwandaises de tirer toutes les conséquences de ces décisions en cessant dans un délai de 48 heures toutes les activités diplomatiques et consulaires du Rwanda en RDC. Cette décision fait suite à l'escalade de la violence à l'est de la RDC avec des attaques perpétrées par les rebelles du M23 soutenus par les forces armées rwandaises. En dépit de cette rupture de relations entre la RDC et le Rwanda, la ministre congolaise des Affaires étrangères a affirmé que la RDC s'engage à respecter toutes les procédures diplomatiques internationales et à assurer une transition ordonnée de cette décision. Si du côté rwandais, cette décision regrettable selon les autorités rwandaises, elle n'est pas destinée à améliorer la situation à l'Est. En revanche, sur place au pays, cette décision est plutôt saluée par certains politiciens, en l'occurrence, certains partis politiques, en l'occurrence, le Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito. A noter que d'autres mesures souveraines accompagnent cette décision, notamment celle interdisant le survol de l'espace aérien congolais par les aéronefs rwandais, ainsi que le survol du Rwanda par les aéronefs congolais. Face aux tensions croissante entre la RDC et le Rwanda à l'est de la RDC. Que pensez-vous de cette décision du gouvernement congolais de rompre ses relations diplomatiques et consulaires avec les Rwandais? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Pour aussi écrire à l'adresse paradiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp des Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les zones 9 76 80 79. Hippolyte Kapanga est à la mise en ordre de ce magazine et je lui fais à Bongonda sur la réalisation, la coordination au micro, c'est Marcel Ngomba, à toutes et à tous, et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Voilà encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Nous disons merci à ceux qui ont déjà réagi par rapport à ce nouveau magazine. Notamment, on va parler de cette rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC. Merci de nous suivre également en direct sur les plateformes de Radio Capi, des plateformes numériques, j'allais dire, à savoir YouTube, Facebook et X. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans ces studios Jean-Paul Lumbulumbu. Bonjour.
Bonjour Marcel.
Voilà, maître Jean-Paul Lumbulumbu, vous êtes ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et notable de cette même province. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'emblée cette première question, cette rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Marcel, je m'en voudrais de ne pas, avant de répondre à votre question, de ne pas lancer un mot d'encouragement. Un mot d'encouragement d'abord à nos FRDC pour la résistance patriotique que nous constatons dans la ville de Goma. Un mot d'encouragement à tous les compatriotes Wazalendo, les jeunes, les femmes qui ont su exprimer ouvertement ce à quoi on s'attendait. En fait, 2013 n'est pas 2025 et je pense que les acteurs de la région ont compris que si en 2013 la ville de Goma pouvait tomber aussi facilement comme ça, mais les niveaux de résilience de la population du Nord Kivu a tellement augmenté que la population refuse de céder sa ville aussi facilement. Voilà pourquoi je ne peux que encourager, féliciter, ovationner les FRDC pour la résistance, ovationner les Wazalendo pour leur esprit de patriotisme prononcé, ovationner toute la population de la ville de Goma, à laquelle d'ailleurs je fais une invitation déjà d'appui en termes d'aliments en FRDC, en termes de biscuits, en termes de sardines, en termes de bouteilles d'eau. Il faut leur donner pour qu'ils puissent résister jusqu'au bout. Voilà. Une rupture diplomatique, ce n'est toujours pas une bonne décision, mais ça peut l'être dans des circonstances comme celle-ci. Parce que vous savez, les relations diplomatiques entre les États constituent un moyen par lequel les États peuvent régler un certain nombre de problèmes, notamment sécuritaires, économiques et autres. Mais lorsque le pays, la République démocratique du Congo, arrive à prendre une décision de la rupture des relations diplomatiques, Il faut le noter, cette rupture de relations diplomatiques intervient dans un contexte de tensions terribles entre la République démocratique du Congo et les Rwandais qui appuient la rébellion du M23. Comme vous le savez, d'ailleurs j'en profite pour saluer ici la position des experts du Conseil des Nations Unies qui ont, dans un rapport récent, affirmé évidemment l'appui militaire du Rwanda à la rébellion du M23. Évidemment, cette rupture intervient également dans un contexte où le Conseil de sécurité déjà, à la requête de la République démocratique du Congo, se préparait déjà à convoquer une réunion d'urgence pour statuer sur l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, la décision, elle est prise, elle devra être accompagnée par un certain nombre de mesures. Je voudrais en profiter ici pour saluer la bravoure de Madame Thérèse, notre ministre des Affaires étrangères, qui s'est démarquée dans cette période, nous l'avons constaté, parce qu'il faut le savoir, Marcel, pour obtenir une réunion d'urgence au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, il faille que votre pays, à travers le ministre des Affaires étrangères, ou alors le chef de mission diplomatique, ou notre représentant auprès des Nations Unies, soit en mesure de convaincre le membre du Conseil de l'opportunité de la tenue de cette réunion du Conseil de sécurité, mais aussi qu'on soit en mesure de leur donner les temps de se préparer. Donc, le fait d'obtenir cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies de manière urgente dans un contexte comme celui que nous traversons pour le moment, en tout cas, coup de chapeau à notre ministre des Affaires étrangères. Elle fait la fierté de notre pays et nous l'avons vu défendre véritablement son pays au Conseil de sécurité des Nations Unies. La rupture diplomatique intervient également dans un contexte comme je l'ai dit tantôt, où dans la région se prépare la réunion de l'EAC. Vous savez, l'EAC, moi j'ai toujours considéré l'EAC comme étant la pire fabrication de Paul Kagame afin d'embarquer et d'exécuter un plan d'occupation de l'Est de la République démocratique du Congo. Tenez, lorsque vous lisez par exemple la charte de l'EAC, l'article 4, il est clair. Lorsqu'on parle par exemple, on dit à cet article-là que les pays membres en adhérant à l'EAC donne à cette structure la capacité de détenir, de gérer des terres dans ce pays-là. Je pense que tout était déjà préparé par Paul Kagame afin d'amener la République démocratique du Congo vers cette structure dans laquelle moi je ne trouve aucune importance pour le pays. Donc cette rupture intervient également dans ce contexte-là. Alors, cela voudrait nous amener à dire que la décision de la rupture a été suffisamment réfléchie.
Et justement, il faut le rappeler, la RDC s'en tient toujours au processus de paix, du dialogue avec les facilitateurs angolais. C'est la RDC s'en tient toujours à ces processus plutôt que de parler de cette réunion de l'EAC.
Évidemment, vous l'aurez même constaté lors de différentes interventions, lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies le 26 janvier. Cette réunion devrait avoir initialement lieu le 27 janvier, donc hier. Mais compte tenu des développements rapides de la situation sur terrain, cette réunion a été ramenée au dimanche 26 janvier 2025. J'ai eu le temps de suivre les différentes interventions de pays membres, les pays influents, les pays permanents et les pays non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais franchement, je dois reconnaître que j'étais totalement satisfait de la position la plus claire possible, prise notamment par les États-Unis d'Amérique, prise par la France, en ce qui concerne l'appui militaire du Rwanda à la rébellion du M23. J'étais content que ces pays-là citent nommément les Rwandais, parce qu'il y a d'autres pays, pour des raisons de sensibilité diplomatique, certains pays refusent de citer les Rwandais.
Et de demander également au Rwanda de retirer ses troupes
évidemment,
du territoire de la RDC.
Mais les États-Unis ont cité le Rwanda, la France a cité le Rwanda. Il n'y a que les pays membres de le pays non permanent. La parole a été prise par la Sierra Leone. J'ai trouvé la Sierra Leone très très dubitative par rapport à la condamnation de l'appui militaire du Rwanda en faveur du M23. Donc, quand vous faites l'analyse des différentes interventions à l'occasion de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, j'apprends qu'il y a une autre réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, toujours sous la même situation. Aujourd'hui, je crois que cette deuxième réunion doit être convoquée parce qu'il y a escalade maintenant à Goma. On ne sait plus comment expliquer que une rébellion, qu'on dit une rébellion congolaise. Mais lorsqu'elle arrive à Goma, ce sont des forces rwandaises qui traversent la frontière pour entrer à Goma. Donc on ne peut plus parler d'une rébellion, on parle d'une agression. Mais dans les conclusions de la plupart des intervenants, qu'il s'agisse des États-Unis, la France, la Suède et tous les autres États, tous ont encouragé le processus de Luanda. Ils ont encouragé le processus de Luanda et c'est dans ces processus-là que je pense que le pays, plutôt la République démocratique du Congo, devrait plutôt se fier pour trouver une solution durable à la crise sécuritaire, aux conséquences humanitaires indescriptibles que nous sommes en train de vivre actuellement à l'est de la République démocratique
du Congo. Dans les contextes actuels, Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vous estimez qu'il était vraiment temps de rompre les relations diplomatiques et conciliaires avec le Rwanda. Et d'ailleurs, parmi les réactions que nous avons recueillies sur la page Facebook Parole aux auditeurs, mais aussi dans le groupe WhatsApp des Parole aux auditeurs, il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants qui appuient cette décision du gouvernement congolais et estiment qu'il était vraiment temps. Alors, on va ouvrir le standard. On va poursuivre avec vous, Maître Jean-Paul Lumbulumbu. Le temps pour nous d'ouvrir le standard parce qu'il y a déjà des auditeurs qui sont impatients d'intervenir. Nous avons Jérémy Mamba qui nous appelle de Lubumbashi. Nous avons également Sylvain depuis Mahagi Obed qui est en Kinshasa. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur l'Afrique de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs, nous parlons aujourd'hui de ces décisions de rupture de relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC. Décision qui a été annoncée par le gouvernement congolais dans la soirée du samedi 25 janvier dernier. Si vous voulez intervenir, composez le 09 716 80 79.
Parole aux auditeurs.
On y va avec le tout premier auditeur qui est en ligne. Il s'agit de Jérémy Mamba qui nous appelle depuis Lubumbashi. Jérémy, vous avez la parole.
Oui, oui, bonjour, monsieur Marcel. Bonjour également à l'invité. Vous voyez, cette rupture qui intervient à ce net moment, moi, je trouve que n'arrive pas au bon moment parce que il ne fallait pas attendre qu'il y ait escalade de violence à l'Est pour pouvoir intervenir. Parce que il vous souviendra que les Rwanda, avec ses supplétifs, M23 et les autres, ont commencé, ça fait belle lurette. Et ça a endeuillé presque plusieurs de nos compatriotes à l'Est. Moi, je pense qu'il fallait agir au moment opportun, donc c'est-à-dire depuis longtemps. Et même quand on est en train de lancer un moratoire contre les Rwanda, on donne 48 heures, etc., moi, je pense qu'il fallait aller vite, vite que possible. Et ça ne pouvait pas demander à ce que qu'on rappelle les ambassadeurs ou les consulaires qui sont là-bas. Il fallait automatiquement le faire parce que lorsque le climat est morose et surtout lorsque le chef de l'État s'est montré humble en cherchant la voie pacifique, mais de l'autre côté, vous voyez que vous lisez l'orgueil. Et lorsqu'il y a deux poids comme ça qui ne se retrouvent pas, il fallait peut-être, la solution c'était peut-être rompre les relations, parce que je me dis que aussi longtemps que la communauté internationale laissera les Paul Kagame, les chefs de le président rwandais, continuer à imposer le trafic d'influence ici sous la région, ça va créer beaucoup de problèmes et la région risque d'être asphyxiée. Vous vous rendez compte que lorsque les situations commencent comme ça, on laisse un prince régner sur la région et c'est toute la région, il y aura fissure. Et je crains que la souveraineté de l'Afrique soit mise à mal. C'est le moment où jamais, et j'apprécie quand même la diplomatie congolaise à travers la ministre des affaires étrangères, parce que elle a pris les choses à bras le corps et elle a arraché ce qu'il fallait. Et moi, je me dis que c'est le moment pour que notre pays puisse faire entendre sa voix.
Nous ne pouvons pas tolérer jusqu'à ce stade le silence total de la communauté internationale. Moi, je pense qu'il fallait agir. La communauté internationale se doit, elle a le plein pouvoir de pouvoir arracher la paix immédiate. Comment ? En imposant, on connaît celui qui mène les débats, c'est justement le président rwandais. Et pourquoi ne pas agir militairement? Et c'est là que maintenant nous remettons en cause pour dire le gouvernement congolais doit savoir que ce qui fait, pourquoi le Rwanda fait peur aux autres, parce qu'il s'est organisé militairement. Mais nous sommes un grand pays à grande dimension et nous avons une popularité vraiment à démontrer. C'est le moment où nous pouvons organiser notre armée. Nous devons commencer par restructurer notre armée pour être efficace sur le terrain et faire face à toutes les vérités qui nous arrivent. Et je pense que nous pouvons réussir dans toutes les choses.
Merci beaucoup, Jérémy Mwamba. Vous pensez que cette rupture est un peu tardive, mais du moins, vous saluez cette décision du gouvernement congolais. Vous pensez également que c'est le moment pour nous de réorganiser notre armée pour bien faire face à l'agresseur rwandais. Merci, Jérémy Mwamba de Lubumbashi. Nous allons revenir à Kinshasa pour retrouver Obed. Obed, vous êtes en ligne?
Oui, bonjour Marcel. Oui, en tout cas, Marcel, je tiens d'abord à féliciter tous les Wazalendo et les FRDC qui sont au front pour défendre l'intégrité territoriale. Comme le disaient les auteurs, vous le savez, l'intégrité territoriale, c'est a compris les saints. Et ils ont tout nos soutiens possibles. Alors, pour essayer de continuer un peu sur ce qu'a dit Jérémy Mwamba, je pense qu'il y a une sorte d'inopportunisme décisionnel, parce que je pense que là, le gouvernement congolais se rétracte, essaie de se rattraper par rapport à ce qu'on disait déjà sur cette guerre, cette agression qui nous est imposée injustement par le Rwanda. Je pense que c'est maintenant qu'on a maintenant compris la gravité de la situation. Puisque M. Marcel, il vous souviendra qu'on a fait autant d'émissions avec vous et on insistait beaucoup plus sur la rupture diplomatique et le gouvernement congolais semblait un tout petit peu caresser le Rwanda au regard de tout ce qui se faisait déjà et qu'on comptabilisait déjà des morts. Mais on voit que c'est aujourd'hui, lorsqu'ils ont connu une expansion beaucoup plus poussée, qu'on rappelle l'ambassadeur du Rwanda au Congo. Maintenant, je pense qu'à ce niveau, il est bien clair qu'on doit rester sur cette lancée. Il n'y a plus question d'aller aux négociations. Moi, je pense qu'il y a aussi une chose que nous ne devons pas oublier. Je pense que toutes les démarches qui mêlent Madame Thérèse est sous l'impulsion du gouvernement, mais aussi du président de la République, parce qu'elle ne peut rien faire à ce stade sans qu'elle puisse recevoir des injonctions. Là, je pense qu'on va se mettre bien d'accord. Mais aussi, ce qui est un peu ibuesque, c'est de voir que l'on sait déjà la tendance de la communauté internationale. Il ne sera pas question ici de pouvoir s'attendre à une résolution qui sera beaucoup plus satisfaisante de la part de la France, de la part tout simplement des 7 membres permanents des Nations Unies, parce que les faits clairs et nets est que la réaction des plénipotentiaires de ces 5 membres permanents des Nations Unies n'est pas vraiment assez, qui va nous satisfaire vu la situation qui prévaut pour l'instant. Mais aussi, monsieur l'invité est d'accord avec moi, parce qu'elle a aussi relevé qu'il était inopportun de pouvoir s'adhérer à l'EAC parce que ça nous a apporté à rien. Il est temps maintenant de nous prendre en charge. Il est temps maintenant de faire expressis verbis la guerre au Rwanda pour défendre notre intégrité territoriale. Voilà au stade où nous en sommes et nous devons rester mobilisés.
Voilà, merci beaucoup Obed depuis Kinshasa. Également l'a dit Jérémy Mwamba, il est temps de se réorganiser, surtout de réorganiser notre armée qui est capable de prouesses, comme on sait bien le voir aujourd'hui avec la situation bien que préoccupante au niveau du Goma six jours, mais les forces armées congolaises appuyées par les Wazalendo sont en train de tenir tête à l'agresseur. Merci Obed depuis Kinshasa. Sylvain, vous êtes en ligne, on vous écoute. Sylvain, vous avez la parole.
Bien, Marcel, je vous salue. En fait, moi je dis ceci, cette rupture diplomatique entre la RDC, peut-être pour ne pas être trop dur, cette interruption, puisque ça peut reprendre à tout moment, est liée tout simplement au fait que les deux pays n'ont pas la même vision de ce qui se passe à l'est du Congo. Le président de la République, lorsqu'il a pris fonction, il l'a dit parmi ses piliers, hein, parmi les six piliers de ses actions, c'est que la diplomatie serait un des outils importants pour résoudre les problèmes de défense et de sécurité nationale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on se rend compte que les stratégies mises en place ou la méthode diplomatique mise en place a échoué? Et si cela a échoué, moi je me dis qu'il ne suffit pas de rompre avec des Rwandais tout simplement. Mais M. Mouzito avait déjà proposé à l'époque, effectivement, qu'on puisse construire un mur entre la RDC et les Rwandais, puisque ces dangers d'incursion rwandaise, je dirais rwando-ougandaise, était déjà analysé, mais le gouvernement traîne toujours les pas. Et moi, je me dis aujourd'hui, il est très important que nos deux pays puissent dialoguer. L'auditeur qui est intervenu avant moi insiste sur le fait qu'il n'y a pas nécessité de dialoguer. Je suis de près la situation de l'est du pays et je me donne le travail d'observer les faits et les événements qui se déroulent dans la déstabilisation du pays de son côté oriental. Il y a des questions qui ne peuvent pas être résolues aujourd'hui par les armes. Et même si les armes tamponnaient cette rébellion, mais il y a des questions sur lesquelles il faut qu'on discute. Nous sommes en train d'insister sur les faits de la communauté internationale. C'est de ça. Mais si notre diplomatie n'est pas assise sur la puissance du système de défense et de sécurité interne, nous croyons vraiment que nous allons réussir? On peut rompre tout.
Alors Sylvain, puisque vous parlez du dialogue, c'est vrai, c'est ce qui a été toujours prôné par le gouvernement congolais, mais c'est pose un vrai problème, c'est celui de l'autre partie qui apparemment fait fi de tout ce qui est comme processus de paix. Et ça, vous le savez, si l'autre parti continue à camper dans ses positions, continue à faire fi de tout ce que qui s'est dit autour de ce dialogue avec les facilitateurs angolais, c'est vous pensez pas que cette mauvaise foi fait en sorte que le dialogue puisse ne pas donner de l'espoir?
Notre dialogue avec les Rwandais est basé sur quelles revendications rwandaises? Et si il n'a pas de revendication rwandaise, pourquoi nous avons un problème à discuter avec les Rwandais? L'identité du M23 est-elle liée exactement au Rwanda? Mais si moi je parle de dialogue, monsieur Marcel, excusez-le-moi, ça n'engage que moi, le gouvernement de la République démocratique du Congo doit dialoguer avec tous les groupes armés qui sont au Congo, Yakodeko et les autres en Ituri, au nord qui vous n'en parlez même pas, au sud qui voulait même, et dans d'autres provinces. C'est important. Lorsque le président de la République dit qu'il ne peut pas négocier avec un groupe terroriste, alors que ce groupe était capable d'être défait par nos forces loyalistes, est-ce que nous voulons une réponse où nous sommes en train de poser des préalables juste des populistes alors que le problème réel n'est pas résolu? Je suis d'accord avec vous dans votre questionnement, M. Marcel, et peut-être je vais aussi être d'accord avec ceux qui pensent qu'il ne faut pas dialoguer. Mais est-ce que notre système de défense et de sécurité nous permet de pouvoir dialoguer en ayant une position de force? J'ai dit non. Le problème aujourd'hui, et ça c'est reconnu sur le plan universel, M. Marcel, qu'on ne voile pas la face ou qu'on ne distrait pas les gens, le dialogue a été toujours
soutenu
par la puissance et la force.
Voilà, merci Sylvain. On a compris, on a retenu, vous insistez par rapport au dialogue, vous estimez que c'est de toutes les façons ce qui est vrai. Les fonds diplomatiques, le dialogue, c'est vraiment la meilleure voie. Même tous ceux qui ont fait des déclarations, que ce soit au niveau des institutions africaines, que ce soit au niveau des institutions internationales, c'est le dialogue qui est prôné. Voilà, vous insistez par rapport au dialogue. Merci Sylvain d'avoir appelé depuis Mayagi. Franck, vous êtes à Vienne en Autriche. Franck, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup à vous tous au studio. Bonjour à l'invité et nos compassions à tous nos compatriotes qui se trouvent dans les territoires soumis à des rythmes d'insécurité par les troupes rwandaises. Oui, je suis en train de vous suivre. Merci beaucoup. Je crois que nous devons commencer par rappeler certains faits géographiques. La RDC et le Rwanda resteraient des voisins jusqu'à la fin du temps par rapport à leur situation géographique. Mais par rapport à ce que nous sommes en train de voir depuis un certain moment, tout personnellement, et je crois, l'option prise par la République démocratique du Congo de rompre toutes les relations diplomatiques et consulaires avec le Rwanda est d'abord à saluer. Je suis en train de suivre mon cher compatriote, le prof Sylvain, je le comprends, mais je crois qu'il est sur place, il sait ce qui se passe là. Que servirait-il d'abord de commencer à dialoguer chaque fois avec quelqu'un qui n'est pas très sincère à votre égard? Je crois qu'on n'a pas tout le temps pour reprendre tous ces débats, ça peut se faire en privé, mais pour le moment, c'est bien ce qui est en train d'être fait du côté diplomatique. Mais le plus grand morceau, c'est de nous réorganiser encore de l'intérieur. Parce qu'on peut rompre maintenant, mais après des années, après des mois, on sera encore peut-être obligé de reprendre le contact avec le même. Mais si ces contacts doivent encore être repris, ça serait sur base de quelle organisation interne. Dans la plupart des cas, on n'a jamais cessé de le rappeler que la force d'un État, que ce soit du point de vue économique, diplomatique et culturel, c'est d'abord l'organisation interne. Donc on ne doit pas laisser l'organisation interne un peu à débandade et on pense que c'est la politique extérieure qui serait forte parce que la politique étrangère, c'est le reflet de ce qui se fait à l'intérieur. Donc pour le moment, c'est question d'abord de bien revoir ce qui doit être fait afin que la dignité congolaise, l'honneur, l'intangibilité de nos frontières, l'intégrité de nos territoires, d'abord être respectée. Sinon, on va encore prendre des dialogues avec, il y aura brassage, mixage, 5 à 10 ans après, on se retrouve encore dans la même situation, et finalement, on aura avancé de 3 pas pour reculer de 45 pas. Et jusque là, si on doit faire une moyenne, c'est toujours les peuples congolais de la classe moyenne qui sort perdant. Les autres, ils se retrouvent moyennant des postes à travers des positionnements et ils savent un peu comment ils peuvent juguler. Mais les peuples de Massila, de Kinshasa, ils gagnent quoi dans tout ça? Voilà. Alors, je crois que pour le moment, nous devons nous interpeller de la hiérarchie jusqu'à la base. Chacun de nous doit se rendre compte qu'il y a eu peut-être des choses qui n'ont pas été convenablement faites. Il y a eu des erreurs, il y a eu des déviations, mais c'est encore le moment de nous regarder en face, de nous ressaisir afin de barrer la route à tous ces détracteurs. Mais il faut aussi dénoncer certaines incohérences de gestion du point de vue interne.
Voilà, donc on a compris.
Mais quand il y a parfois des injustices, on ne peut pas parfois se taire quand on voit il y a des tournements, il y a ceci, il y a cela. Comment Merci. On peut se développer, on peut être fort si de l'intérieur, il y a autant de déficits.
Merci Franck d'avoir appelé depuis Vienne. Vous aussi, vous saluez cette rupture de relations diplomatiques avec le Rwanda, mais vous estimez, autant qu'il y a ces décisions de rompre avec le Rwandais, autant de relations diplomatiques et consulaires avec le Rwandais, autant que c'est l'occasion pour les Congolais de s'organiser à l'interne pour faire face à tous les défis socio-économiques. Merci Franck depuis Vienne. On va prendre Hugues Tamfumu qui nous appelle depuis Kinshasa, le communicateur du parti SID. Vous avez la parole, Hugues.
Maxime, c'est le journaliste. Je vous salue et je salue tous nos peuples congolais qui sont en train de souffrir maintenant à l'Est par rapport à la situation des guerres du Rwanda. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, nous avons un problème sérieux, ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, plusieurs fois, nous avons dit proposer, il faudrait que nous fermions nos frontières. La guerre, là, injustement, mais on nous a jamais écoutés. Le président Eli Martin Fayulu, il a fait sa déclaration hier, il a dit ceci. Nous devons nous mobiliser autour de nos pères spirituels. Nous devons faire un dialogue sincère, une cohésion nationale. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, toutes ces négociations, processus du Rwanda, processus bientôt de part et d'autre, ça aboutit absolument à rien. L'unique solution aujourd'hui, nous devons mettre nos intérêts de côté. Nous devons s'asseoir autour du tablier vérité, réconciliation, cohésion nationale. Parce que personne n'en profite à tout ça. Aujourd'hui, nous voyons que non, même des pays, d'autres pays africains, Burkina Faso aujourd'hui, il y a eu des guerres. 3 ans après maintenant, Traoré est là. On a vu ce qu'on a fait pour le pays. On a acheté, on a mis des moyens. Ici, il y a une loi de programmation des militaires. Dites-nous aujourd'hui que non, est-ce que nos forces armées aujourd'hui, nous avons intérêt de les soutenir. Mais la responsabilité, on comble aujourd'hui au gouvernement en place. Il faut mettre des moyens. Il faut les donner de l'eau. Il faut les donner à manger. Il faut acheter les armées. Il faut tout ça. Il faut les accompagner. Là, nous, nous sommes d'accord. Mais si aujourd'hui, nous voyons que non, il y a des détournements de gauche à droite, ça profite à qui? Personne. Mais nos frères de l'Est sont en train de souffrir. Et on a un petit pays aujourd'hui qui peut accéder à l'aide 80 fois aujourd'hui. Mais aujourd'hui, rien ne va. Mais dites-nous aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes où? C'est voilà. Pour ça que non, le président élu a demandé que non, aujourd'hui que non. Nous tous, nous devons marcher les premiers ces samedi. Nous serons à l'arrêt.
Voilà, merci Igue Tamfumo d'avoir réagi depuis Kinshasa. Vous êtes communicateur du parti. Et Sidi, on va revenir à notre invité, l'honorable Jean-Paul Lumbulumbu, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et notable de cette même province. Vous avez suivi, honorable Jean-Paul Lumbulumbu, les différentes interventions. Il y a ceux qui estiment que ouais, c'est bien bon d'interrompre les relations avec diplomatiques consulaires avec le Rwanda, mais au-delà de cela, il faut au niveau interne qu'il y ait une certaine cohésion. Et il faut également, pour ceux qui estiment qu'il faut réorganiser l'armée, qu'on relaisse de manière à ce que on soit ne pas être en position de faiblesse chaque fois qu'il aura à négocier.
Évidemment, je respecte le point de vue des uns des autres. Il y en a qui pensent, par exemple, comme Jérémy, que la décision elle est tardive, mais moi je me dis il n'est jamais tard pour mieux faire. Mais aussi, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a certaines décisions qui sont prises par les institutions. C'est pas sur base d'un coup de baguette magique. C'est-à-dire, il y a des implications de la prise d'une décision d'État, surtout lorsqu'il faut rompre les relations diplomatiques avec un autre État.
Il faut examiner
beaucoup de contours oui. Tout autour de cette décision-là. Maintenez, la République démocratique du Congo, ça je salue la diplomatie de notre gouvernement, est en train de convaincre actuellement, parce que c'était difficile avant de convaincre les instances internationales, que nous étions plutôt agressés par les Rwandais. Il y en a qui disaient, non, c'est un problème interne, une rébellion interne à la RD Congo. Mais grâce à la diplomatie agissante de notre gouvernement, les sons est en train d'être entendus en dehors de la République démocratique du Congo. Et rassurez-vous que pour que ce son soit entendu, il faille que notre diplomatie, que notre ministre des Affaires étrangères soit à mesure de convaincre même les pays qui sont en très bonne relation diplomatique avec le Rwanda. Et que donc la prise d'une telle décision, je pense qu'elle doit être entourée d'un certain nombre de pesanteurs que parfois le public ne pouvons pas maîtriser. Mais par ailleurs, dans les interventions, je sens l'idée du dialogue. L'idée du dialogue revient. Évidemment, cette idée du dialogue a été confirmée par beaucoup d'intervenants à l'occasion de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a eu lieu à New York. Mais lorsqu'il faut parler de l'idée du dialogue ici, évidemment, je le dis sur ligne de télévision de Kinshasa, le dialogue est l'un des mécanismes de gouvernance. On ne peut pas gouverner sans dialoguer. Sur le plan externe, s'il faut ramener la question du dialogue dans le contexte de la crise sécuritaire qui oppose le Rwanda à la République démocratique du Congo, moi je refuse de dire que la question de l'insécurité à l'Est, c'est la question d'une rébellion interne. Loin s'en faut. Il s'agit d'un pays qui est agressé par un autre, et c'est ce qui justifie qu'il y ait une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il s'agit de deux États dont l'un viole les chartes des Nations Unies, et à l'occasion de cette réunion, il fallait apporter des éléments qui montrent effectivement que ces pays-là violent la charte des Nations Unies. Donc il ne s'agit pas d'une rébellion interne ici. Les dialogues dans le cadre de cette crise telle qu'elle a été recommandée par les différents intervenants au Conseil de sécurité, c'était d'aller vers le processus de Luanda. Évidemment, le processus de Luanda, le président João Lourenço, qui a été désigné facilitateur de l'Union africaine pour cette crise-là, parce que le Conseil de sécurité, en vertu du principe de subsidiarité, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne peut pas se saisir d'office de la question sans avoir eu l'opinion de la structure régionale qui constitue notamment l'Union africaine. C'est dans ce sens-là que João Lourenço a été désigné facilitateur pour le compte de l'Union africaine. Mais il faut dire que l'Union africaine va devoir donner son point de vue au Conseil de sécurité afin que le Conseil de sécurité puisse prendre... Mais le problème à ce niveau-là également, c'est de se dire, mais comment fonctionne l'Union africaine? Oui, mais on va te dire peut-être que plus de 70% du budget de l'Union africaine est supporté par l'Union européenne. Là également, c'est un problème. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de pays membres du Conseil de sécurité, notamment la France et autres, qui contribuent au budget de l'Union africaine, et que donc l'Union africaine sera également en difficulté de dire un certain nombre de choses avec liberté, tout simplement parce que le budget de l'Union africaine est supporté dans une grande partie par l'Union européenne. Et ça, c'est un sérieux problème. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que le président de la commission de l'Union africaine, monsieur Moussa Faki, dans son langage, vous semblez l'entendre réduire la question de l'agression de la RD Congo à une rébellion interne armée.
Et d'ailleurs, à ce sujet...
Alors que...
À ce sujet, il y a une réaction énergique du ministre congolais et le porte-parole du gouvernement qui a trouvé cela très...
C'est maladroit, c'est
très confus.
Tout à fait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je suis de cela. À l'époque, j'étais à Goma. J'ai conseillé le gouvernement de faire partir les troupes de l'EAC parce que l'EAC, c'est Kagame. Alors, s'il faut aller dialoguer, oui, on va dialoguer avec qui? Faut-il dialoguer avec le marionnette? Où faut-il dialoguer avec les commanditaires? Les vrais commanditaires, le vrai auteur de l'agression de la République démocratique du Congo, ce n'est pas le M23, c'est les Rwandais. Et c'est ça la position du gouvernement. Le gouvernement, le président Félix Tshisekedi vous dit, je ne peux pas négocier, je ne peux pas dialoguer avec le M23. Parce que le M23 n'existe pas. Le M23 a été de fait en 2013. Moi, j'étais à Goma lorsque la ville de Goma est tombée. Le M23 a été de fait, une partie est partie en Ouganda et une autre au Rwanda. Nous sommes témoins, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit aux habitants de la ville de Goma, la ville de Goma ne tombera jamais. La ville de Goma n'est pas tombée, ne vous détrompez pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui l'armée rwandaise occupe une partie de la ville qu'on va dire que la population de la ville de Goma a adhéré à l'idée de la balkanisation de la province du Nord Kivu. Loin s'en faut, ça c'est avoir une petite perception. Parce que la ville de Goma, cette population que je connais très bien, a une capacité de résilience, de résistance, et je pense que vous êtes en train de le constater. Moi je me dis, les gens se trompent, Goma ne tombera jamais. Goma ne tombera jamais. Ils vont être là pour 1, 2, 3 jours. Je ne pense pas que dans un mois, ils seront là. Pour dire, l'idée du dialogue, oui, nous voulons bien, parce que le dialogue sur le plan, il n'y a pas de diplomatie sans dialogue. Mais dialoguer avec qui? Et sur cette question-là, la position du gouvernement, je pense qu'elle est assez claire. Et nous soutenons cette position-là pour la simple et bonne raison que le vrai agresseur, l'auteur de notre malheur, c'est le Rwanda.
Donc pour le moment, Maître Ni est face à une sorte d'impasse avec les gouvernements rwandais qui insistent qu'il faut dialoguer avec le M23, ce qui n'en est rien pour les gouvernements congolais. Et comment sortir de l'impasse?
On ne peut pas négocier avec le M23. Il faut négocier avec celui qui a envoyé le M23 et c'est Paul Kagame. Je vais revenir sur
le deuxième
aspect du dialogue. J'entends le porte-parole de l'ECID dire... Le président Martin Fayoulou a dit il faut un dialogue sincère et que nous devons nous mettre autour de de nos pères spirituels. Je partage également, je partage cette idée de nous mettre autour de pères spirituels, mais je me dis, la question du dialogue à l'interne, là je reviens sur le dialogue à l'interne. La question du dialogue à l'interne, je fais ici allusion à l'opposition et à la majorité. En ces moments précis où le pays traverse une crise aussi grave que celle que nous traversons, vous ne pouvez plus parler de l'opposition et de la majorité. Nous devons parler la République. Et la République avait déjà prévu des mécanismes de dialogue entre la majorité et l'opposition. Tenez, la loi portant statut de l'opposition politique, je suis heureux d'être parmi ceux-là qui avaient apporté des contributions pour que cette loi soit proposée à l'Assemblée nationale. À l'époque, avec le professeur le Sénégalais El Hadj Mbodj, nous avions porté quelques contributions pour cette loi. Cette loi sur le statut de l'opposition prévoit en son sein déjà qu'en principe, au sein de l'Assemblée nationale, il doit y avoir un chef de file de l'opposition. Et ces chefs de file de l'opposition, ils bénéficient d'un budget prévu par la République, par l'État. Ça veut dire que le mécanisme de dialogue institutionnel entre la majorité et l'opposition, ce mécanisme est déjà prévu par les lois de notre pays, de telle sorte que lorsqu'on a une idée novatrice, on a une alternative à donner pour aider les pays à le faire sortir de la crise, on n'a plus besoin de passer par d'autres mécanismes. Je veux bien, je ne voudrais pas négliger ce que pourrait représenter l'intervention ou l'implication de nos pères spirituels dans une question aussi sensible que celle-ci, mais sur le plan institutionnel, la loi portant statut de l'opposition avait déjà prévu un mécanisme. Et d'ailleurs, oui. Je m'en vais pour preuve, lorsque vous voyez le bureau l'Assemblée nationale ou du Sénat, il y a toujours un représentant de l'opposition là-dedans. Ça veut dire qu'il existe un mécanisme par lequel le président Martin Fayoulou peut faire passer les idées pour aider la République. Parce qu'à ce niveau, moi je ne pense pas qu'on puisse parler opposition-majorité, mais plutôt on doit parler la République.
Tous unis pour la RDC. Voilà, on va prendre... je crois deux ou trois derniers auditeurs, mais en attendant, je veux lire rapidement ces directions sur la page Facebook de Paroles Auditeurs. La Georges Kilangalanga qui nous écrit: face à l'escalade des tensions entre les deux pays et considérant que les rapports diplomatiques sont un signe de bonne attente, nous pensons que cette décision est bonne à moyen terme parce que les conséquences de la rupture des relations diplomatiques peuvent être politiques, économiques, sociales et sécuritaires. Voilà, c'est Georges Kilangalanga depuis Bounia et Ismaël Mompoy qui nous écrit depuis le Bombashi. Cette décision était c'est que tout le peuple congolais, la plupart du Congolais attendaient la belle lurette que ce soit tardif après que le Rwanda ait déjà épuisé la récolte de toutes les informations qui permet aujourd'hui de progresser sur le territoire congolais. Donc pour moi, cette décision est salutaire. En plus, la RDC décide de cesser de collaborer avec le Rwanda. Alors que dire de l'infiltration du Rwanda dans les institutions congolaises, dont la RDC doit gagner cette guerre, car même atteinte partout par ces inciviques. Voilà, beaucoup, beaucoup de directions, on ne saura pas les lire toutes, mais merci à tous d'avoir réagi. On revient au standard pour écouter Eri, conseiller communal, qui nous appelle depuis Calémie. Eri, vous êtes en ligne?
Ah, bonjour, Marcel ou Guy Matel, je sais pas quoi dire.
C'est Marcel, c'est Marcel, on vous écoute, c'est Marcel, allez-y.
Voilà, merci, hein. Je suis en ligne, oui. Je vous salue vous-même et madame Julie Feza qui est là, et je salue l'honorable maître Lumulum qui prendre part à cet échange parce que c'est qui est au menu de mal, quel est l'apport maintenant que les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda sont interrompues, pour moi, quel est l'impact, comment vous comprenez cela? Personnellement, je pense que pour comprendre, est-ce que cette mesure de rompre les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, sachant que la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays a deux rôles, le premier, c'est il est d'ordre sanction, c'est-à-dire un État qui considère qu'il rompt les relations diplomatiques, ça signifie qu'il pense qu'il a sanctionné l'autre. Pour moi, quelle est la sanction qui, disons, vraiment léserait le Rwanda à partir du moment où il ne se sent plus être en relation officielle, du moins diplomatique, avec la RDC? Des relations diplomatiques générer le Rwanda. Ça, c'est une question qui me vient en tête. Peut-être l'honorable Rumbulum va tenter un peu d'éclaircir. La deuxième ou le deuxième rôle.
Rapidement, Rick, on a placé des temps rapidement, oui. Oui.
Le deuxième rôle, pour moi, je voudrais que l'honorable maître Lumbunumbu me réponde. Est-ce que, au-delà du fait qu'il faut continuer de persister, de tenir mordicus pour que les armes parlent, au lieu que le dialogue soit privilégié, la relation diplomatique rompue, c'est aussi une sanction. À quel degré le Rwanda se sentirait être sanctionné et à quel degré se sentirait
quel est l'impact de ces décisions par rapport au Rwanda? Merci à Eric Herry depuis Kalemi, depuis Kalemi. Oui, Modeste, vous êtes à Kinshasa. On vous écoute, Modeste, rapidement.
Ah, bonjour Marcel, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kano.
Allez-y, rapidement, allez-y.
Je voulais dire ceci. Kagame et le Rwanda n'écoutent que le langage de la force. Je crois que nous devrions changer de partenaire stratégique comme nous en avions à l'époque avec le Cuba et les autres, les Zimbabwe. Parce qu'actuellement, avec tous les partenaires traditionnels, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, toutes ces puissances jouent à l'hypocrisie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une posture de faiblesse. Même si nous allons dialoguer avec Kagame, Kagame va nous imposer sa loi. C'est que je propose actuellement que les gouvernements, en commençant par les présidents de la République, prennent les mesures concrètes pour réorganiser l'armée et financer notre armée.
Voilà, Merci, vous aussi, vous pensez qu'il faut réorganiser l'armée. Merci à Modeste depuis Kinshasa. On prend le tout dernier, c'est Maître Claude Niembo qui nous appelle depuis Kinshasa. Il est avocat d'affaires. Maître Claude Niembo, vous avez la parole. Rapidement, 2 minutes, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ok, merci beaucoup, merci à l'invité, merci à tous les auditeurs de parole aux auditeurs. Alors, ma contribution, en quelques mots, premièrement, nous saluons la décision, qu'on a beaucoup attendu. Nous nous disons, mais pourquoi nous sommes frappés, nous continuons à plaider du point de vue sur l'espace international, alors qu'on est en train d'être affronté. Nous avons le Rwanda, lorsque tu es à Goma, qui a transformé nos provinces, nos deux provinces, comme son supermarché. C'est-à-dire la relation diplomatique, la corruption de cette relation diplomatique asphyxie plus le Rwanda. C'est vrai qu'il y a les rendez-vous du monnaie du recevoir, mais c'est le Rwanda qui vend plus au Congo. Deuxièmement, nous voulons également qu'il n'y ait pas survol des aéronefs rwandais. Parce que, sans oublier que le Rwanda, qui est la compagnie internationale du Rwanda, avait ses aéronefs qui venaient participer en RDC, dans l'aéroport international de Goma. Je pense qu'à tout point de vue, c'est vrai que nous également, nous avons des choses à donner, mais du point de vue financier, c'est le Rwanda qui va le regretter. Alors, voilà. Comme proposition,
oui.
Demander au gouvernement d'investir encore, s'ils ont encore d'autres pistes, en sorte que, parce qu'on sait qu'à tout le moins, on arrivera à un dialogue, bien évidemment avec le Rwanda et non avec les terroristes. Mais lorsque vous faites un dialogue et que vous avez durci les clauses, je pense que la personne avec qui vous collaborez sera quand même en face de quelqu'un de plus fort. Et c'est ce que nous saluons, qui aurait dû se faire depuis longtemps.
Voilà, merci.
Voyez-vous, deuxièmement,
on a plus assez de temps. Deuxièmement, rapidement, 30 secondes. Deuxièmement, allez-y, rapidement.
Oui, deuxièmement, le président doit changer de partenaire. Nous sommes fatigués avec l'Occident.
Voilà.
Qui joue à une forme de manipulation, qui lui dit autre chose et qui montre autre chose.
Voilà, merci beaucoup, maître. Merci, maître. Vous avez beaucoup de choses à dire. On est passé à la fin de ce magazine, peut-être dans une prochaine émission. Merci, maître Claude Niembo, depuis Kinshasa. Vous êtes avocat d'affaires. On revient à notre invité, honorable Jean-Paul Lumbunumbu. On va conclure. Vous avez suivi, en tout cas, pour les uns et les autres, c'est une décision salutaire. Mais ceux qui estiment qu'il faut irrogation interne, il faut réorganiser également l'armée congolaise, mais rapidement, l'impact par rapport au Rwanda.
Marcel, la localité de Bunagana est tombée. C'était dans une période où l'Ouganda voulait lancer la construction de routes qui étaient prévues entre Kampala, Kasindi, Butembo, et une autre route devait déboucher par Bunagana. Cela devrait faciliter des échanges entre les deux pays. Mais ces échanges-là, c'était en défaveur du Rwanda. Et quand le Rwanda a compris ça, on a lancé la guerre contre la République démocratique du Congo. La rupture des relations diplomatiques, évidemment, elle procède d'une certaine sanction. La sanction peut ne pas apparaître comme ça, mais c'est le peuple rwandais qui va sentir. Évidemment, l'un des intervenants l'a dit, le Rwanda a fait de notre pays son supermarché. Lorsqu'il y a une rupture des relations diplomatiques, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises et qui contraignent les uns les autres à ne plus faire un certain nombre de choses qui se faisaient. Et que donc, les effets de la sanction, nous, on peut ne pas le sentir, mais la population rwandaise va sentir cela, surtout les opérateurs économiques. La circulation facile, tu vois, la circulation facile entre les deux pays, évidemment, il va y avoir des conséquences de part et d'autre. Mais je crois que ce sera beaucoup plus sur le Rwanda. Et en tout état de cause, c'est impensable qu'au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, que les experts démontrent clairement que le Rwanda appuie militairement une rébellion et que nous qui sommes victimes de cette rébellion continuons à entretenir des bonnes relations diplomatiques avec ces pays-là. C'est contradictoire. Donc il fallait quand même une certaine cohérence de nous-mêmes par rapport aux faits que nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi je pense que cette décision, elle est à saluer. La rupture des relations diplomatiques, la reprise des relations diplomatiques avec un pays, c'est un mode régulier de la gestion des conflits internationaux. C'est rompu aujourd'hui, mais peut-être que demain, après-demain, la situation reviendra bonne et il y aura encore reprise des relations diplomatiques. Mais pour le moment, dans le contexte qui est le nôtre en ce moment, je pense que bien qu'elle prise un peu tardivement, mais cette décision, elle est à saluer et elle est à encourager. Il y a Modeste oui. qui dit qu'évidemment, il faut changer de partenaire. Le Rwanda n'écoute que le coup de force. Je partage ce point de vue parce qu'en réalité, ceux qui nous font la guerre, la partie visible de l'iceberg, c'est les Rwandais qui manipulent une petite, un petit groupe de gens qu'on appelle M23. Mais ceux qui nous font réellement la guerre, ce sont des multinationales qui sont dans ces pays-là et qui profitent de la matière aujourd'hui. Voilà. Les Rwandais passent pour le meilleur pays exportateur du coltan, alors qu'ils ne produisent pas le coltan. Donc, il y a des multinationales qui profitent et qui sont les réels faiseurs de cette guerre-là. Donc, tout en disant non au Rwanda, sur le plan diplomatique, nous devons continuer les dialogues pour décourager ces forces internationales-là de continuer à soutenir le Rwanda.
Voilà, merci beaucoup, maître honorable Jean-Paul Lumbulumbu, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et notable de cette même province. On espère vous retrouver prochainement. Fin de ce numéro de Parole aux auditeurs des séjours. Merci à toute l'équipe de production, à Hippolyte Kapanga qui est à la mise en onde, à Julie Fezabongo qui la réalise et coordonnée, et à Nelson Nyombeke sur les diffusions sur nos plateformes digitales. Au micro, c'était Marcel Gogomba. Voilà, au revoir à toutes et à tous.